Alors, dans la continuité de ce cycle de formation, cycle 1, formation fondamentale, nous allons voir qui est la Vierge Marie. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est quand on rentre dans une église de chrétiens, particulièrement une église catholique ou une église orthodoxe, on voit que les représentations de la Vierge Marie sont très présentes. On voit des vitraux, on voit des statues. On voit beaucoup de gens poser des bougies devant les statues, les vitraux. Souvent, il y a même presque plus de statues de la Vierge Marie que de Jésus. Ça peut arriver. Et puis, chez nos frères orthodoxes, on voit beaucoup d'icônes de la Sainte Mère de Dieu. Voilà. Ce qui fait dire à d'autres croyants que peut-être nous adorons la Vierge Marie comme un Dieu et que nous sommes idolâtres. Mariolâtre. Voilà. Nous aimons trop la Vierge Marie et nous en faisons une sorte de déesse mère, voilà. Une sorte de religion primitive qui se serait christianisée mais qui aurait gardé cet aspect de la déesse mère. En fait, il n'en est rien, mais pour cela, il faut vraiment comprendre qui est la Vierge Marie. Ce qu'on peut dire profondément, c'est que nous n'adorons pas la Vierge Marie. Marie est une créature, c'est une femme parmi les femmes, mais nous la vénérons à un titre spécial au-dessus même de tous les autres saints. Il y a un culte particulier à la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, parce que Dieu a voulu qu'il y ait ce culte pour sa mère, ce que nous appelons la mère de Dieu. Et là encore, il va falloir nous expliquer quand nous parlons de la mère de Dieu. Jésus conduit à la Vierge Marie, Marie conduit à Jésus. Voilà. Peut-être, parmi vous, vous avez fait l'expérience de rencontrer le Christ, ou vous êtes en train de rencontrer le Christ, c'est-à-dire le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ comme vrai Dieu, vrai homme, et qui nous fait vivre, et qui nous donne son amour, et qui nous sauve. Et à un moment donné, dans le parcours spirituel, on peut rencontrer la Vierge Marie, parce que Jésus nous confie à Marie, comme il a confié Saint Jean à Marie au pied de la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. À un moment donné, dans la vie spirituelle, il peut nous être donné de rencontrer la Vierge Marie. Voilà. Tout le monde ne fera pas l'expérience de Bernadette à Lourdes en voyant la Vierge, mais nous pouvons faire une rencontre qui change notre vie en rencontrant Marie. Si nous ne faisons pas une rencontre, elle n'est pas forcément extraordinaire, mais il faut demander cette grâce-là. Voilà. Pour certains, cet amour de Marie va se faire progressivement, en priant depuis l'enfance avec la Vierge Marie, transmise par la foi des grands-parents et des parents. Pour d'autres, c'est la rencontre à un moment donné du Christ qui va amener, plus tard ou en même temps, à la rencontre avec la Vierge Marie. D'autres rencontrent d'abord la Vierge Marie, avant de rencontrer le Christ. Et là encore, on peut penser par exemple à des frères d'autres confessions, je pense particulièrement à nos frères musulmans. Je me souviens très bien, dans un train, quand j'allais justement sur Paris, je discutais dans le train et à côté de moi, une musulmane qui avait découvert que j'étais futur prêtre à l'époque, me disait « J'ai rencontré Marie ». Et je lui ai dit, je m'en réjouis, est-ce qu'elle vous a parlé de son fils? La Vierge Marie conduit à Jésus, voilà. Il y a ces deux cœurs qui sont unis, et donc l'un conduit à l'autre, l'autre conduit au fils, le fils conduit à la mère. Et pourtant la mère ne s'attribue rien vraiment. Tout ce qui est à Marie, c'est pour être tourné vers Jésus, voilà. Donc nous allons voir qu'il ne faut pas non plus penser que nous pouvons avoir une dévotion mariale, entre guillemets, calculée, mesurée, qui aurait une limite à la prière à Marie, parce que sinon, nous l'adorerons, et si nous l'adorerons, ben nous sommes idolâtres, mariolâtres, et nous n'aimerons pas d'abord la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tel que Jésus nous le révèle, et quelque part, on se trompe d'orientation. Ça peut arriver, cette tentation, et des fois, il y a des écueils. Mais généralement, c'est impossible si c'est bien vécu, parce que Marie conduit toujours, nous disent les saints, nous dit l'Église, à Jésus. Cette tentation, Elle a été celle de Saint Jean-Paul II, qui durant sa vie, à un moment donné, qui prie énormément Marie, s'est posé la question si le culte envers la Mère de Dieu n'allait pas être trop grand vis-à-vis du culte rendu à Dieu. Et ce qui l'a libéré, c'est qu'il a lu les œuvres de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort, dont nous fêtons les 300 ans cette année, et en fait il a lu particulièrement le traité à la vraie dévotion de la Vierge Marie. Il a compris, à la suite de ce grand saint marial et vendéen, que Marie conduisait à Dieu. À partir de là, il dit, sa dévotion mariale a pris une autre amplitude, une totalité, et il en a pris sa devise, Totus Tous, tout à toi Marie. Voilà. Il a compris que plus on allait vers Marie, en fait, plus on allait vers Dieu. Alors, qui est la Vierge Marie? Qui est la Vierge Marie? La Vierge Marie, c'est une juive. Une fille juive issue de famille juive, voilà, qui a été pétrie, sans aucun doute, dans toute la belle tradition d'Israël, de l'attente du Messie, de la prière des psaumes, de l'écoute de la parole de Dieu, voilà. Une jeune fille qui priait beaucoup, dont la tradition nous rapporte qu'elle avait Anne et Joachim comme parents. Vous avez dans la chapelle Saint-Liel une représentation de Sainte Anne, voilà, la mère de la Vierge Marie, elle-même qui est adorée, enfin qui est pas adorée, qui est priée, qui est vénérée, Sainte Anne, dans un sanctuaire qu'on appelle Sainte Anne Dorée. Voilà. La Vierge Marie, donc, est une juive à qui le Seigneur veut faire des grâces très particulières. Dans le récit de l'Annonciation, nous avons ces grâces qui nous sont données et qui sont les préliminaires de quelque chose de très grand. Permettez-moi de que nous puissions entendre la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 1. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage, à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans ce récit de l'Annonciation, nous est donné les promesses du salut, c'est-à-dire Dieu qui avait promis un Messie, qui va le donner au peuple d'Israël, par l'intermédiaire du « oui » de Marie. Voilà, le « oui » de Marie, « qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. » Dans cette parole va se jouer le salut, va se jouer la possibilité à toute l'humanité de tous les temps de recevoir le Messie. Plus tard, Bernard de Clairvaux dira dans des prières, « Dites oui, Mère, dites oui. » Parce qu'à cette dimension, il vénérera beaucoup la Vierge Marie, ce sera un chantre de la Vierge Marie, il priera en lui rappelant le « oui », parce qu'effectivement, le salut de l'humanité a été conditionné par la liberté d'une femme, d'une jeune femme, qui a accepté librement de se donner à Dieu pour un dessein extraordinaire, être la mère du Messie, qui plus est la mère du Fils de Dieu. La créature est devenue la mère du Créateur selon la nature. C'est extraordinaire. Alors, la Vierge Marie, nous ne connaissons pas grand-chose sur sa vie. Beaucoup de choses nous sont cachées. Jean-Paul II dira un jour que oui, de fait, les évangiles ne disent pas grand-chose de la Vierge Marie. Pourtant, les éléments que nous avons, où Jésus parlera de sa mère, où les évangélistes retraceront des événements précis de Marie, ou même ses propres paroles, nous donnent toute une grande qualité de son âme, nous donnent vraiment beaucoup d'éléments sur la grandeur de la Vierge Marie, ainsi qu'une spiritualité mariale que tout chrétien, à l'école de la Mère de Dieu, peut faire sien. Alors, revenons encore une fois sur ce récit de l'Annonciation. Il ne s'agit pas ici de quelque chose à l'eau de rose. Voilà, une espèce de prière où Marie accepte l'ange, voilà, d'une manière désincarnée en disant « Très bien ». En réalité, elle joue sa peau. Elle joue vraiment sa peau. Parce qu'elle sait très bien qu'en étant enceinte, dans un contexte de l'époque, sans que le père soit connu, c'est considéré comme adultère. Et parce que c'est considéré comme adultère, c'est la lapidation, c'est la répudiation. Et le risque de la répudiation de Marie, c'est la lapidation. Donc Marie sait très bien qu'elle va jouer son existence sur un oui dont seule la sécurité repose sur Dieu. Donc on voit dans ce oui un acte de foi très grand et un courage de Marie qui pose sa sécurité sur Dieu seul. Parce que ça ne sera pas compris par les autres. Ça ne sera pas compris par les autres. Et Joseph, nous dit l'évangéliste Matthieu dans les premiers chapitres, qui était un homme juste, qui a voulu s'écarter voyant l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est de Dieu, mais ça me dépasse. L'ange lui dira, non, prends Marie. Ce qui est en elle vient de Dieu. Tu lui donneras toi-même le nom de Jésus à cet enfant. Et Joseph va accueillir ce don, va aider Marie, va protéger Marie, va garantir une forme de sécurité à la Mère de Dieu. Et il faudra toute une éducation divine pour aussi aider ce merveilleux compagnon que sera Joseph, ce fiancé, pour aider à Dieu à ce que le dessein se réalise, que l'enfant puisse naître. C'est lui qui permettra, qui préparera le terrain en partant de nuit vers l'Égypte parce que l'enfant aurait pu être tué avant. Donc on voit dans la vie de Marie, ce oui entraînera l'incompréhension et une grande précarité. Elle va être déportée, elle va accoucher dans la rue, on pourrait dire, dans une crèche. Parce que personne ne pouvait l'accueillir dans les hôtels. On imagine quelqu'un qui, je ne sais pas, accouche dans un hall de garage de voiture, quoi. Parce qu'il n'y a plus de place, il y a la précarité. Donc elle va accepter toute cette forme-là de précarité, toutes ces pressions, ces incompréhensions, parce qu'elle a confiance en Dieu. Donc le oui de Marie, c'est véritablement un oui de courage. Ça, c'est important. Saint Augustin dira plus tard que la Vierge Marie, avant d'enfanter physiquement le Fils de Dieu, l'a enfantée dans la foi. Elle est mère dans la foi. Parce qu'elle a une grande foi, qu'elle est mère dans la foi, elle est devenue la mère de Dieu. Voilà. Le spirituel précède le charnel. La mère de la foi engendrée biologiquement. L'évangile de l'Annonciation nous dit beaucoup de choses. Tout d'abord que Marie, alors je vais revenir avant même cet évangile, parler des moments où nous voyons des figures de la Vierge Marie. Nous avons quelques éléments dans l'évangile qui nous parlent de la Vierge Marie, les récits lucaniens dans Saint Luc, chapitre 1, chapitre 2. Voilà, où nous voyons la Vierge Marie, l'ange vient la voir, elle va voir sa cousine, elle va enfanter, elle va présenter Jésus au temple. Puis après, le recouvrement au temple, à l'âge de 12 ans, fin du chapitre 2. Dans Matthieu aussi, nous avons des éléments sur la Vierge Marie, puisqu'on en parle avec Joseph, qui sont le pendant, j'allais dire, paternel de ce qui est vécu au niveau maternel dans Saint-Luc. Nous avons quelques éléments. Nous savons que Marie était présente d'une manière cachée, discrète, dans l'apostolat du Christ. Nous la retrouvons avec lui dans les noces de Cana, Jean chapitre 2. Où la Vierge Marie, d'ailleurs nous dit le texte, c'est d'abord elle qui est invitée, elle est mise à l'honneur, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité. D'abord la mère de Jésus qui avait été invitée, puis c'est Jésus aussi. Ça commence comme ça, le texte de Cana. Pour une fois, c'est Marie qui est mise à l'honneur, de manière particulière. Et nous savons aussi que dans ce texte, Marie va avoir un grand rôle, puisqu'elle va hâter l'action du Christ. en lui demandant, en l'incitant à faire un miracle, qui va être le premier miracle public à Cana, premier signe, nous dira l'évangéliste. Nous savons aussi que la Vierge Marie recevra des éloges de la part de son fils. Quand des proches viendront voir le Christ, ils lui diront au Christ, des proches de lui diront, ta mère et tes frères sont là. Et Jésus dira, non, sont ma mère et mes frères ceux qui écoutent la parole de Dieu. En faisant cela, il fait un très grand éloge à sa mère et il ne la renvoie pas. Parce que quel est l'éloge qu'il fait ? Il reconnaît que sa mère est celle qui écoute la parole de Dieu. Et nous souvenons que dans l'Annonciation, Marie dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon la parole de Dieu qui m'est donnée par l'ange. C'est un grand hommage que fait le Christ à sa mère. Vous trouverez ce passage-là dans Matthieu, au chapitre 12, à la finale du chapitre 12, et des éléments pareils de la parenté du Christ avec Marie, en Luc 8 et Marc 3. Voilà, c'est des éléments qu'on a. Nous avons surtout un élément important, c'est en Saint Jean, chapitre 19, où Jésus va confier à Marie Jean, l'apôtre Jean. Femme, voici ton fils sur la croix. Et puis il dira à Jean, fils, voici ta mère. L'Église a vu toujours en Saint Jean le disciple, tout bien-aimé, l'évangéliste, dans ce disciple bien-aimé, mais a vu aussi tout disciple chrétien qui reçoit Marie comme mère. Au baptême, tout chrétien reçoit Marie comme mère. Au baptême, nous sommes comme Saint Jean, nous sommes accueillis par Marie. Et là, l'ordre des paroles sont importantes. Ce n'est pas d'abord « fils, voici ta mère, mère, voici ton fils », c'est « femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marie nous a déjà reçus avant que nous ne la recevons. Ça veut dire que Marie nous connaît et nous aime avant que nous la connaissions. Dans le cheminement spirituel, si un jour nous rencontrons la Vierge Marie, c'est d'abord Marie qui nous connaît, qui nous précède et qui un jour se fait connaître. Mais elle nous connaît très bien, la Vierge Marie. Voilà. Parce que Dieu nous connaît bien et que comme Dieu est bon, il confie à sa mère, qui est notre mère, ce qu'elle doit savoir pour nous aider. La Vierge Marie est déjà annoncée dans le livre de la Genèse, dans les prophètes, et c'est elle-même aussi qui est annoncée dans l'Apocalypse. Dans la Genèse, au chapitre 3, nous avons ce que nous appelons le proto-évangile. Quand, dans le livre de la Genèse, il est écrit « Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme, entre ton linage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Cette parole de Dieu est dite après le péché d'Adam et Ève, après que Adam et Ève soient livrés à leur finitude. En ayant péché, ils sont retirés de la grâce, ils sont livrés à leur finitude, à leur nudité, à leur honte, ils ont perdu le sens de Dieu. Mais Dieu, dans ses paroles, il y a le serpent qui est là, qui a tenté, le tentateur qui a tenté Ève et Adam. Mais Dieu, dans ses paroles, je mettrai une hostilité entre toi et ta femme, entre ton linage et le sien, t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Les pères de l'Église ont appelé cela le proto-évangile, le premier évangile, parce qu'ils ont décelé en cela l'annonce du salut. La femme écrasera le serpent. La nouvelle femme, la nouvelle Ève, Marie, écrasera le dragon. Et nous retrouverons cette prophétie en Apocalypse 12, puisqu'il est dit que la femme couronnée d'étoiles terrasse le dragon. Et donc Dieu, en voyant la chute des premiers hommes, va préparer un plan de salut qui passera en son temps par une femme qui écrasera le dragon. Une femme qui ne tombera pas. Si Ève, qui veut dire la mère des vivants, est tombée dans le péché, une nouvelle Ève permettra aux hommes de retrouver la grâce de manière particulière. Marie est cette Ève nouvelle, comme nous la chantons. C'est elle l'image de la femme couronnée d'étoiles dans l'Apocalypse. C'est aussi une image de l'Église. Quand nous parlons de Marie, nous parlons aussi de l'Église, parce que Marie est la figure idéale de ce que l'Église, nous en parlerons. Mais c'est aussi elle qui terrasse le dragon dans le combat spirituel. Souvent, on la représente ainsi dans les dans les représentations, par exemple, du XIXe siècle, des grandes statues un peu saint-sulpiciennes, on voyait Marie qui écrasait les dragons en compagnie de sa rive de Saint-Michel. Dans le combat spirituel, effectivement, on sait très bien que dire le nom de Jésus ou dire le nom de Marie fait fuir les démons, parce que c'est la nouvelle Ève et qu'elle est toute sainte. Le prophète Isaïe, en Isaïe 7, avait prophétisé que la Vierge, selon le texte grec, la Parthénos, la Vierge, enfanterait un fils. Elle en voit là que c'est de l'ordre du don de Dieu, de l'inspiration divine, puisque je ne pense pas que le prophète Isaïe a compris ce qu'il disait quand il disait que la Vierge enfanterait un fils. Là, pour le coup, on se dit, qu'est-ce qu'il nous dit, Isaïe? Mais ces paroles révélées, et en son temps, ça s'est accompli. Effectivement, la Vierge enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, et cette prophétie, quasiment littéralement, a été remise dans l'évangile de Matthieu en disant, effectivement, il sera Dieu avec nous, l'Emmanuel. Voilà, donc nous avons cette réalisation, cette Vierge qui enfante, c'est la Vierge Marie. Marie a reçu cette grâce particulière d'être préservée du péché des origines. D'être préservée du péché des origines, elle est toute sainte. Donc le démon, le serpent n'a pas de prise sur elle. Elle est immaculée. Et nous avons cette compréhension de son immaculée conception dans l'annonce même que fait l'ange à Marie à l'Annonciation. « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quand l'ange dit cela, l'ange emploie un mot très particulier. Il veut dire, en grec, c'est « kekarito mene ». Ça veut dire « comblée de grâce, saturée par la grâce ». Voilà ce que dit Jean-Paul II sur ce point précis. Kikarito mene. Ce terme adressé à Marie apparaît comme une appellation propre à la femme destinée à devenir la mère de Jésus. C'est ce que rappelle à juste titre Lumen Gentium, donc c'est le Concile Vatican II, en affirmant la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation qui parle sur l'ordre de Dieu comme pleine de grâce. La plénitude de grâce désigne en même temps tous les dons surnaturels dont Marie bénéficie en rapport avec le fait qu'elle a été choisie et destinée à être mère de Dieu. Pleine de grâce est le nom que Marie possède aux yeux de Dieu. Réjouis-toi, pleine de grâce. C'est le nom que Dieu donne à Marie. Et cette plénitude de grâce, elle est saturée en Marie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre d'une trace de péché, elle est active, elle se déploie. Donc Marie est véritablement comblée de grâce, et là vous avez le fondement scripturaire, biblique, de l'Immaculée Conception. Quelqu'un qui est immaculé, il est sans péché, sans aucune trace du péché des origines. Marie a été préservée et le sanctuaire saint, où le Verbe va pouvoir se faire chair. Dans la grande tradition chrétienne, on donne beaucoup de noms de vénération à la Vierge Marie et on emploie un en particulier en l'appelant l'Arche d'Alliance. Aussi vrai que dans l'Ancien Testament, on a mis dans un arche les tables de la loi, les paroles de Dieu, les grands commandements ont été mis dans un arche pour honorer la présence de Dieu. Aussi, il est vrai, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Marie est le nouvel arche d'Alliance parce qu'elle est la forteresse sainte, imprenable par le démon, toute pure, toute immaculée, dans laquelle la parole de Dieu va se faire chair. Jésus, le Verbe éternel, va se faire chair et le Verbe s'est fait chair, il s'est fait enfant. Et nous pouvons dire que ce Verbe fait chair a le visage de Marie. S'il n'a pas de père humain au sens biologique, il a un père adoptif en la personne de Joseph, Jésus, et il n'a que Dieu comme père. C'est ce qu'il rappellera dans la finale de Luc 2, chapitre 2. « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Toujours est-il, Jésus a le visage et les traits de la Vierge Marie. Voilà. Il est beau de contempler que le Christ a voulu des traits humains et une filiation. Et en cela, Marie, nous l'appelons la Mère de Dieu. Ce terme est très fort quand nous disons la Mère de Dieu, C'est ce que le Concile définira. Mais quand nous disons que Marie est mère de Dieu, nous ne disons pas que Dieu a une mère, ça serait une hérésie. Dieu est éternel, il n'a pas de mère. Alors pourquoi nous disons « Je vous salue Marie, comblée de grâce », les paroles de l'Annonciation, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », les paroles de la Visitation d'Élisabeth à Marie, « Sainte Marie, mère de Dieu », c'est que Marie est mère de Dieu parce qu'elle a engendré le Verbe éternel dans l'ordre de l'humanité. Dieu s'est pris un corps et une âme, il s'est fait chair dans le sein de Marie. Et comme une fois que le Verbe s'est fait chair, on ne peut pas saucissonner la personne de Jésus en la coupant à côté sa divinité, à côté son humanité. Non, c'est tout un. Aussi Marie, en tant que mère de l'humanité du Christ, est mère aussi de Dieu tout court, parce qu'on ne peut pas diviser Jésus. Et ainsi, nous l'honorons du titre de mère de Dieu, ce que nous appelons la Théotokos, la mère de Dieu. Cette mère de Dieu reçoit ainsi des honneurs de la part même de Dieu. Le Tout-Puissant a fait, le Créateur a fait de sa créature sa mère. Le Créateur s'est abaissé dans le sein de sa créature. Le Créateur reçoit l'enseignement de sa créature. Le Créateur obéit à sa créature. Le Créateur honore sa créature comme sa mère. C'est très grand comme mystère, mais c'est vrai. C'est ce qui se passe dans le sein de Marie. Aussi, Marie, quand nous la prions, nous savons qu'elle est écoutée parce que le Créateur écoute sa mère. Et c'est ainsi qu'à Cana, chapitre 2, dans une grande fête, on va manquer de vin et Marie dira à Jésus, « Il manque de vin, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus dira, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et là encore, ce n'est pas un « femme ». J'allais dire que nous pourrons l'employer des fois un peu, comment dire, misogyne, rétrograde, vu du dessus. Non, c'est un femme avec toute la plénitude de la féminité, parce que quand le Christ dit cela, il s'adresse à l'Ève nouvelle. Le Christ est Dieu, et même si c'est sa mère, il est aussi Dieu qui s'adresse à l'Ève nouvelle. Et il dit femme, parce qu'il a en face d'elle la plénitude de la féminité. Sans péché. Il lui dit, femme, mon heure n'est pas encore venue, parce que nous savons dans saint Jean que l'heure, c'est le moment où le Christ sera glorifié, où il sera élevé sur la croix, et il montrera sa gloire, parce qu'effectivement, ceux qui le regarderont seront convertis, et sa gloire, c'est la mort et la résurrection. C'est ça le mystère de la gloire dans saint Jean. C'est tout un. Alors Jésus dira, mon heure n'est pas encore venue, mais Marie, qui a foi en Jésus, va voir quand même les serviteurs et dira « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et là, Marie nous enseigne sur sa spiritualité qui consiste à faire tout ce que Dieu veut. C'est aussi simple. Celui qui imite Marie rentre dans la docilité à Dieu parce que nous faisons tout ce que Dieu veut. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et après, elle peut dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et en faisant ainsi, dans cet acte de confiance et même d'audace dans la foi, Marie va acter l'action du Christ et le Christ va faire un miracle. Et nous voyons ainsi que la Mère de Dieu a des prérogatives sur son Créateur. Parce qu'elle est la Mère et parce qu'elle est la Mère, le Seigneur la suit. Et Montfort dira un jour, si vous voulez voir le roi et prier et voulez être exaucé, et si votre prière est un peu comme une pomme qui pourrait être un petit peu vérolée, n'y allez pas par vous-même, donnez-la à la reine. La reine va la nettoyer, la purifier. Et de ses plus belles paroles, elle le dira au roi. Et vous serez écouté. Si quelqu'un passe par Marie, la reine, la mère de Dieu, il sera exaucé. Le Seigneur, le Roi éternel, l'écoutera, parce que sa prière est purifiée par la prière de la mère, et la mère, c'est toujours ce qu'il faut pour ses enfants. Quand nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, nous savons qu'elle prie pour nous, qu'elle est notre avocate, et que sa prière est plus efficace que dans la nôtre, qu'elle purifie notre prière, et que sa puissance d'intercession est entendue par le Seigneur. Voilà. Voilà pour le mystère de la Mère de Dieu. Et cette maternité de la Mère de Dieu va continuer à s'exercer. Marie, Mère de Dieu, va devenir Mère des hommes et Mère de l'Église. Et oui, ce qui est très étonnant, c'est que dans la figure de Marie, nous avons à la fois le modèle de la vie consacrée, le modèle de la vie du mariage conjugal, nous avons le modèle de la virginité et le modèle de la fécondité. C'est un mystère, c'est le mystère de l'Église, mais c'est tout un. Et oui, la virginité de Marie n'a pas diminué sa maternité, ça l'a amplifiée. C'est mystérieux. Et oui. Quand vous voyez dans les icônes les étoiles sur le front et les épaules de la Vierge Marie sur son manteau, c'est la foi de l'Église qui s'exprime ainsi. Nous disons que Marie est toujours vierge. Elle est la très sainte Vierge. Ce titre-là, qui a priori n'est pas forcément qu'un titre respectueux, mais qui n'est pas un titre d'honneur très grand, est devenu dans la tradition chrétienne un très grand titre. On l'appelle d'ailleurs la Vierge. C'est beau. Quand nous disons ça, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'effectivement, Marie a été vierge avant l'enfantement du Christ, qu'elle a été vierge pendant l'enfantement du Christ, et qu'elle a été vierge après l'enfantement du Christ. C'est ce que nous appelons la virginité post, ante et pendant. La virginité perpétuelle, ce sont les trois étoiles dans l'icône. Voilà, c'est la représentation des trois étoiles. Alors évidemment, biologiquement, on se dit, mais comment ça marche? Et pourtant, si Dieu peut changer le pain au corps du Seigneur, il est tout à fait capable de faire ce miracle. Quel est l'enjeu? C'est de lier dans la chair le mystère de Dieu. C'est qu'effectivement, la virginité de Marie la protège de toute souillure. Je ne dis pas que les relations sexuelles en soi sont pécamineuses, dont elles sont voulues par Dieu, mais Marie est vierge de toute souillure. Elle est le tabernacle saint, l'arche d'alliance. Et sa virginité perpétuelle montre qu'elle est scellée, qu'elle n'est que pour Dieu. Mais qu'au lieu que ce soit fermé, ce sceau, ses entrailles vont être répandues, pas répandues, vidées, mais offertes pour les enfants. Et ainsi, Montfort dira, si la Vierge Marie a enfanté le Verbe, fait chair, de la même manière, nous devons être enfantés par Marie. Hein, ce que dit Jésus au chapitre 3 à Nicodème, qu'il nous faut renaître pour vivre de l'Esprit Saint, que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans renaître. Et Nicodème, quelque part, nous dit déjà quelque chose, comment cela est-il possible que quelqu'un qui est déjà vieux peut rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Ça ne va pas se faire de l'ordre physique, mais pourtant ça va se faire de l'ordre spirituel, effectivement. Nous avons, en rentrant en Marie dans la prière, nous sommes enfantés en Marie, et Marie imprime en nous le visage de Jésus, les traits du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, exauce nos prières, purifie-les, mais aussi fasse en nous le Christ. Et voyez-vous, dans la cesse de la prière, le but c'est de devenir à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à l'image de Dieu, nous lui ressemblons dans être relationnel de volonté, de mémoire, d'intelligence, de don, de communion. Et nous devons lui ressembler à l'image et à la ressemblance qu'il nous a créé. C'est-à-dire, c'est un trait qui petit à petit s'imprime, se déploie. Et pour ressembler à Dieu, il y a plusieurs méthodes. En sculpture, quand on veut faire une sculpture qui ressemble, il y a deux grandes écoles. Là, je prends un exemple que dit encore Montfort, qui était lui-même sculpteur et devait sculpter une Vierge Marie. Il y a la méthode au burin. On prend un bloc de bois ou de pierre, on y va au burin, ou plutôt au ciseau, et on tape dedans. Et on sculpte. Il faut être très très adroit, ça demande un vrai équilibre dans les proportions, etc. Et plus nous approchons de la finale de la statue, de la fin de l'ébauche, même de la réalisation quasiment complète, à ce moment-là, le risque, c'est que nous pouvons de moins en moins nous tromper, parce qu'il suffirait d'un mauvais coup de ciseau de burin, et tout casse, dans les petits détails, les dentelles, les doigts, etc. On ne peut pas. Cette méthode-là, dans la vie spirituelle, ça s'appelle l'ascèse, fait par nous-mêmes. Nous sculptons petit à petit, à coup de volonté, d'ascèse, de prière, de don de nous-mêmes, le visage du Christ en nous. Et petit à petit, de l'être grossier que nous sommes, nous nous affinons. Mais le risque, c'est que si nous nous trompons, nous pouvons casser tout. Un mauvais coup serait terrible, surtout sur la terre. Montfort indique qu'il y a une deuxième école pour faire des sculptures, c'est tout à fait vrai d'ailleurs, techniquement. Ça s'appelle le moule. On prend un moule et on coule dedans du bronze, de la terre cuite, tout ce que vous voulez, et après on démoule. On n'a pas besoin de faire de mauvais coups. Ainsi, Marie est celle qui nous forme à Dieu. Elle est la forma Dei. Elle est celle qui nous moule. Et donc ainsi, celui qui suit Marie s'évitera des mauvais coups qui risquent de casser sa vie spirituelle, des erreurs. C'est beaucoup plus dur de tailler et d'arriver par soi-même à être image du Christ, à la ressemblance du Christ. Mais celui qui passe par Marie, il est façonné. Et Montfort dira, les croix deviennent comme des confitures. C'est plus doux, c'est plus simple. Et pourtant, ça se le fait aussi. Montfort écrira le fameux secret de la Vierge Marie et le traité à la vraie dévotion pour aller dans ce sens-là. Parce que Marie va enfanter à la vie divine. Elle est mère de la grâce. Et cette maternité que Dieu lui a donnée pour son Fils éternel qui s'est incarné en elle, Marie va devenir la mère de la grâce. Je m'arrête sur cet aspect-là. C'est la mère de la grâce. C'est ce qu'a développé beaucoup Kolb, Maximilien Kolb, en disant, par exemple, que Marie était l'épouse du Saint-Esprit. C'est dans la grande tradition de l'Église. Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Non pas que Marie s'est mariée avec le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit dans le sein de Marie, tout saint, tout immaculé, qui a engendré le Fils éternel, qui l'a donné une chair, les traits humains, les traits de Marie. Et donc Marie, quelque part, reste unie au Saint-Esprit. Et Montfort dira, lui, quand une âme voit Marie, quand le Saint-Esprit voit dans une âme la prière à Marie, la présence de Marie, il y plonge. Donc Marie, mère de la grâce, quand nous la prions, elle nous aide à accueillir le Saint-Esprit. Et c'est tellement vrai, expérimentalement, que nous voyons quand nous invoquons le Saint-Esprit, quand nous prions la Vierge Marie, ça produit les mêmes effets, ça nous apporte la paix et la docilité. Parce que ça nous fait rentrer dans la vie de grâce. Voilà, parce que Marie est l'épouse du Saint-Esprit. C'est encore ce qui est dit à l'Annonciation. C'est ce que Nicodème, sans savoir comment cela est-il possible de renaître, de vivre de l'Esprit, ben Marie, c'est la mère de la grâce. Donc elle va devenir la mère des hommes à la croix de manière particulière. Sa maternité qui était réservée pour Dieu va devenir une maternité pour tous à la croix. Marie va avoir une nouvelle mission qui était déjà préparée, de réengendrer les hommes à la vie divine, de leur donner accès au Fils de manière particulière. Et le Paul VI, à la fin du Concile, dira « C'est la mère de l'Église. C'est la mère de l'Église. » Quand nous voyons Marie, nous voyons la mère de l'Église. Ce qui est très beau, le pape Paul VI, dont ses écrits pour les jeunes générations ne sont pas très connus, et pourtant c'est un très grand pape qui est bien heureux maintenant. Paul VI a écrit « Le culte marial aujourd'hui, Marialis cultus » dans les années 74. Ce culte-là à la Vierge Marie, il parle de Marie de quatre choses très importantes. Il dira « Marie est la Virgo audiens, la mère de l'écoute ». Celle qui nous apprend à écouter parce qu'elle est celle qui a toujours accueilli la parole de Dieu. Voilà, qu'il me soit fait selon ta parole. En cela, elle est le modèle de l'Église parce que l'Église, vous savez le terme Église, Ecclésia en grec, ça veut dire convocation par la parole de Dieu. L'Église se met toujours à l'écoute de la parole de Dieu. La Vierge Marie, la Vierge Virgo Audiens, c'est la mère de l'écoute. Pape Paul VI continuera en disant Marie est la Virgo Orens, la Vierge priante. Marie est la modèle de la prière. Vous n'avez pas plus belle prière de gratitude, d'humilité, de joie, de respect, de tout redonner à Dieu dans le Magnificat. Le Magnificat est une école de prière. La disponibilité au Saint-Esprit dans le « qu'il me soit fait selon ta parole », faites-nous ce qui vous dira, sont des modèles. Marie est un modèle de prière. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu s'unit à elle et que dans les grands moments de la vie de l'Église, on l'a toujours priée. Ainsi, dans les moments durs, dans les risques d'hérésie, dans les risques d'invasion de foi autre, et les victoires ont été obtenues par le peuple chrétien, par la prière de la Vierge Marie et le chapelet. Parce que la Virgo Orens, elle est celle qui prie et qui nous aide à prier, et cette prière est très puissante. Pape Paul VI continuera en disant « Marie est la Virgo Pariens », c'est-à-dire celle qui, par sa foi et son obéissance, a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d'homme, mais enveloppé par l'Esprit Saint. Voilà, un modèle d'engendrement. Et bien ce modèle d'engendrement en Marie, nous le retrouvons dans l'Église. L'Église engendre la vie divine par le baptême, par les sacrements, par la prédication. Et en fait, c'est le mouvement marial, c'est le mouvement d'engendrement. Marie, modèle de l'Église dans l'engendrement. Et enfin, le pape dira, Marie est la Virgo offerens, la Vierge qui offre. La Vierge qui offre son Fils en allant au temple, son premier-né, son unique-né de sa chair. Elle l'offre et elle offrira sa vie. Et je m'arrête là en disant que la vie de Marie, de la Virgo offerens, celle qui offre, n'a pas été à l'eau de rose. Marie est l'être humain qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Quand Dieu promet quelque chose, ce n'est pas un conte de fées. Marie a dit oui avec courage, nous savons dans le contexte maintenant qu'elle a eu un risque d'être incomprise, d'être répudiée, d'être lapidée. Mais Marie a vu son propre fils mourir, incompris, rejeté, moqué, et elle l'a vu sur la croix. C'est horrible pour une mère. C'est une souffrance énorme. Et pourtant, le rabbin qui accueillit son enfant dans le temple, Siméon, qui dira un cantique avant de mourir parce qu'il a été prévenu par Dieu qu'il verrait le Messie, a dit, lui sera un signe de contradiction. Il y en a qui le croiront, il y en a qui ne croiront pas, il y en a qui découvriront la vérité, en gros, il y en a qui verront qu'en fait ils sont dans l'erreur parce qu'il est la vérité. Et quand il parle, il met la lumière là où il faut, il montre l'ombre là où il faut, il laissera le signe de contradiction, mais toi, un glaive te transpercera le cœur. Est-ce que nous avons sur la médaille miraculeuse, nous avons le cœur de Jésus, couronné d'épines, et à côté le cœur de Marie avec un glaive. Parce que Marie a souffert mystiquement la souffrance du Christ. Elle est unie à sa passion. Et cette union à sa passion fait qu'elle a été plus féconde encore. Voyez, cette fécondité douloureuse a donné la grâce. Donc le cœur de Marie a souffert pour nous. Le cœur de Marie a souffert pour nous dans la passion du Christ. Elle a participé. Elle participe à l'enfantement. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Et là, nous retrouvons encore l'Église qui prie, qui intercède. Comme en ces temps-ci, quand il arrive des choses catastrophiques, nous prions. Et nous avons de la compassion, nous souffrons avec. Nous souffrons avec. Patir cum, compassion. Marie est celle qui offre. Voilà. J'ai parlé de l'Immaculée Conception. Ce don de l'Immaculée Conception de Marie ne situe pas la Vierge Marie au-dessus des autres. Nous serons un jour immaculés. C'est ce que dit saint Paul. Nous serons saints et immaculés. Il en parle dans le mystère de l'Église, il voulait saint. Le Christ s'est associé à son Église parce qu'il la voulait sainte et immaculée. Marie l'est déjà parce qu'elle est la figure parfaite de l'Église. C'est pour ça que dans la Constitution Lumen Gentium, le dernier chapitre, qui est la Constitution sur l'Église, dans le Concile Vatican II, sur le mystère de l'Église, le dernier chapitre concerne la Vierge Marie. Parce que l'Église voit en la Vierge Marie son modèle de prière, d'engendrement, d'offrande, d'écoute, et qu'elle est immaculée. Et que cet aspect immaculé, nous l'aurons un jour. Et Kolb, on peut dire, il appelait Marie l'Immaculée. Voilà. C'était même, à la guerre, un fanatique de la Vierge Marie dans le bon sens du terme. Il disait, des mots extraordinaires qui nous dépassent complètement, il disait, Marie, c'est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Quand vous dites Immaculée Conception, vous dites Immaculée Conception créée, vous parlez de la Vierge Marie. Quand vous parlez d'Immaculée Conception incréée, vous parlez du Saint-Esprit. Parce qu'il est la conception toute sainte entre le Père et le Fils. Et bien, il en parlera ainsi de Marie en disant, Marie, elle nous engendre à la vie, elle fait l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et donc, c'est la quasi-incarnation du Saint-Esprit quand Marie et le Saint-Esprit sont tout le temps unis. Alors, évidemment, il dira quasi, s'il dit c'est l'incarnation du Saint-Esprit, il est hérétique. Et on voit bien l'idée de Kolb, avec des mots un peu audacieux, c'est de dire qu'il y a une unité. Et il en dira, il en parlera en ces termes de Marie en disant aussi, c'est l'Immaculée. Il fera des revues du chevalier, le chevalier de l'Immaculée, il distribuera les médailles miraculeuses en disant, c'est mes cartouches. Parce que Kolb voulait être un soldat, et puis il s'est converti, il est devenu franciscain, il est un grand dévot de la Vierge Marie, il en parlait comme ses cartouches. C'est-à-dire, on distribue une médaille, ça va toucher le cœur. Et il prenait son chapelet, il disait, c'est ma mitraillette à 50 coups. Et il y a 50 dizaines, il y a 50 je vous salue. C'est ma mitraillette à 50 coups. Voilà, le chevalier de l'Immaculée. Et Kolb vénérait l'Immaculée de Conception comme un mystère particulier de destination de toute l'humanité. Voilà, nous sommes appelés à l'Immaculée Conception. Nous ne le sommes pas de par notre naissance. Nous avons la trace du péché. Marie ne l'a pas eu parce qu'elle devait être la mère du premier-né. Et elle devait être la mère de toute l'humanité dans la grâce. D'accord. et cette grâce ne la situe pas au-dessus de nous. Pourquoi et comment elle a pu recevoir cette grâce? Et au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, le grand Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église, le grand docteur commun, lui-même a eu du mal sur ce point-là à dire « Mais si Marie est Immaculée Conception, elle est préservée du péché, donc Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Donc ça marche pas le truc. Elle ne peut pas être Immaculée Conception, d'ailleurs un petit truc en moins, parce que sinon Jésus n'est pas son sauveur. Elle n'a pas besoin d'être sauvée si elle n'a pas de péché. » Alors on a mis du temps à comprendre intérieurement ce mystère, et on a eu une grande solution théologique qui est sublime, mais qui a fallu du temps. Ce n'est pas une solution pour trouver une faille, un système qui ne marchait pas, c'est rentrer dans le mystère de Dieu, avec notre cœur et notre intelligence. Et petit à petit, l'Église a compris que l'Immaculée Conception, c'était une grâce qui avait été donnée à Marie par la croix. En fait, ce que Dieu nous donne dans notre vie progressivement comme fruit de grâce à la croix, à la mort du Christ, Marie l'a reçu de manière totale dès sa naissance. En fait, Marie a été complètement graciée par anticipation, mais c'est un fruit qu'elle a reçu, en fait, de la grâce du Christ, de la rédemption. La rédemption a agi en Marie dès sa conception. La rédemption du Christ, donnée, offerte par le Christ, a blanchi complètement Marie. Le sang du Christ, par anticipation, c'est le terme, par anticipation, a complètement blanchi. Celle qui a bénéficié le plus du salut, en fait, l'a complètement graciée, c'est la Vierge Marie. Elle n'est pas au-dessus, elle a reçu en plénitude le salut parce qu'elle est complètement immaculée. Et nous recevrons aussi ce salut progressivement et nous deviendrons immaculés. Et un jour au ciel, quand Dieu le voudra, corps et âme, nous deviendrons immaculés. Donc ce que Marie a reçu, nous le recevrons. Et Kolb disait, Jésus, notre amour, Marie, notre espérance. Parce que Marie, celle, notre miroir, nous deviendrons comme elle. Donc l'Église contemple vraiment Marie comme sa mère, mais aussi comme son modèle, comme son icône. Marie est l'icône de l'Église. Et donc, ça nous amène aux trois... Donc, j'ai parlé de l'Immaculée Conception, le grand dogme marial. J'ai parlé de la maternité divine. L'Immaculée Conception fêtée le 8 décembre. Pour nous, c'est important parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de la paroisse le 8 décembre. Voilà, c'est le moment où nous renouvelons cette prière que nous faisons au Père de Montfort tous ensemble. J'ai parlé du grand dogme marial qui contient tous les autres dogmes marials, qui est la maternité divine, qui est fêtée le 1er janvier. C'est beau de commencer l'année par la maternité divine. Vous savez que la veille, le 31 janvier au soir, nous prions ce passage du Nouvel An ici, avec Marie. Et le troisième grand dogme marial, alors je reviens sur l'Immaculée Conception pour cette anecdote, pour vous montrer que le ciel et la terre, ça fonctionne bien. C'est pas en Wi-Fi, mais ça marche bien. Le pape Pie IX va proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Et quelques années plus tard, la Vierge Marie dira ces mêmes paroles à Bernadette. Bernadette qui n'a pas fait de théologie, qui ne pouvait pas expliquer ce dogme. Elle dira, vous êtes qui? Je suis l'Immaculée Conception. Donc on voit que la terre et le ciel, ça marche bien. Quand l'Église dit quelque chose sur le mystère de Dieu, Dieu peut le confirmer à tout moment, parce que l'Église est guidée dans ses dogmes. C'est une vérité révélée, c'est guidée. Voilà. Dogme de l'Assomption, c'est proclamé par Pie XII en 1950, c'est que Marie est montée corps et âme au ciel. En cela, nous voyons véritablement notre espérance. Au ciel, les hommes sont sans corps. Voilà, ils ne sont qu'en âme, leur corps est poussière. Il n'y a que Jésus-Christ qui a un corps, parce qu'il est vrai Dieu, et une fois qu'il est incarné, vrai homme, et qu'il est ressuscité avec son corps, il n'y a pas dans le tombeau, il n'y a pas de corps de Jésus, il est au ciel. Mais la Vierge Marie est montée aussi au ciel, et c'est son assomption. Alors je fais un peu de mécanique. L'ascension du Christ, c'est différent de l'assomption de Marie. L'ascension, c'est Dieu qui monte. Il est autopropulsé, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il monte quand il veut. La Vierge Marie, elle est tractée. Elle ne peut pas monter sans Dieu. Elle n'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'attire. Dans l'un des cas, au premier cas, c'est Dieu qui monte parce qu'il est le maître du cosmos, il monte quand il veut. Dans l'autre cas, c'est la plénitude de la grâce qui, en Marie, la saisit et la monte au ciel, corps et âme. C'est son assomption. Cette assomption, pour nous, c'est une espérance, parce qu'au ciel, les défunts, ceux qui sont au purgatoire, alors je ne parle pas de ceux, s'il y en a en enfer, mais ceux qui sont au purgatoire et ceux qui sont au ciel sont sans âme, sont sans corps, il n'y a que l'âme. Mais pour un être humain, nous ne sommes pas dans le domaine de l'angélisme, les anges sont des pures créatures spirituelles, nous sommes incarnés, nous sommes corps et âme, et à cette séparation du corps et de l'âme, est une souffrance ontologique, une souffrance dans notre existence, dans notre être, ce qui fait qu'il y a un manque. Et nous espérons, comme le dit le credo, la résurrection de la chair. Un jour, nous aurons un corps glorieux, comme le Christ a un corps glorieux, incorruptible, qui ne pourra plus mourir. Voilà. Et nous contemplons ce mystère-là en Marie. En Marie, nous voyons l'humanité qui est déjà glorifiée dans son corps. Donc je redis ce que j'ai dit, le Père Kolb voit en elle son espérance, l'espérance de l'humanité. Donc là, nous avons trois grands fêtes mariales qui nous disent la destinée humaine. Et en fait, les fêtes mariales, les dogmes mariaux, ne s'éclairent pas autrement que quand nous méditons sur qui est le Christ. Si nous méditons sur qui est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, nous accueillons le dogme de la maternité divine de Marie qui est la Mère de Dieu, voyez. L'Église a défini le dogme de la Mère de Dieu parce qu'il fallait clarifier la compréhension du mystère du Fils de Dieu. Vrai Dieu, vrai homme. Non, il a pas pris une chair un peu, il a fait semblant. Non, il s'est vraiment incarné. Ah bon? Mais ça a des conséquences alors pour Marie. Ben oui. De la même manière, par rapport au péché, au mystère du péché et la destinée de l'humanité par rapport au péché, l'Immaculée Conception nous éclaire. De la même manière, sur la glorification des corps, le dogme de l'Assomption nous éclaire. Donc, la destinée humaine et le mystère du Christ sont liés. Et donc, quand nous étudions, quand nous contemplons le mystère de Marie, nous contemplons le mystère de Dieu, le mystère de l'homme, le mystère du Christ. C'est pour ça que quand nous prions le chapelet, en fait, c'est une prière, on dirait, christocentrique, qui nous montre le mystère du Christ. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus. Voilà, nous contemplons le Christ, c'est au centre. Alors, quelques encore petits points, je vais m'arrêter là. Marie a fait un pèlerinage dans la foi. Ce n'est pas parce que Marie est immaculée que Marie n'a pas fait un pèlerinage dans la foi. Marie n'a pas dit non, elle a toujours dit oui. Dans une représentation de piété très belle, on représente souvent parfois Marie au pied de la croix en train de s'évanouir, comme la mater dolorosa, la mère des douleurs. Au Moyen-Âge, on a beaucoup représenté la souffrance, la mort, etc. Ou la fin du Moyen-Âge, et à l'époque renaissante, on a montré Marie qui souffrait. Voilà, ce qui est très vrai, la mère des douleurs. On parle de la mère aux sept douleurs. On a une fête liturgique de cela. Mais Marie est restée debout au pied de la croix. La Stabat Mater, Marie est debout au pied de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie est le modèle de la foi indéfectible, celle qui ne chavire pas dans l'épreuve. Si l'être humain s'égare, tous les êtres humains s'égarent, les disciples s'en vont, Marie est debout au pied de la croix. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle a foi, elle a espérance, et elle aime son Fils, et elle sait dorénavant qu'elle aime la destinée de tous les hommes, elle est devenue la mère des hommes au pied de la croix. Son sein s'est ouvert, son cœur s'est ouvert à tous les hommes. Et donc là, nous voyons que Marie a petit à petit compris progressivement ce que c'était que ce mystère du Messie qui allait sauver l'humanité. L'image et les idées peut-être qu'elle s'en faisait au moment de l'Annonciation se sont clarifiées progressivement. Elle ne comprenait pas tout. Elle a avancé dans la foi, nous dirons, dans la nuit de la foi. C'est pour ça qu'elle est le modèle de la foi, la mère de la foi. Et elle avançait contre toute espérance. Quand on dit cela d'Abraham, on peut le dire qu'il avança contre toute espérance, il avança sans savoir où il allait, nous dit l'Épître aux Hébreux. On peut le dire encore plus de la Vierge Marie qui avançait dans la foi. Et on voit que ce chemin de foi qui avance sans savoir mais qui garde les promesses du Christ, qui fait confiance, c'est le modèle de l'Église qui fait son pèlerinage terrestre. Tout être humain est appelé à faire ce pèlerinage dans la foi, l'espérance et la charité. L'Église honore la Vierge Marie pour cela, parce qu'elle est sa mère, son modèle, son aide, son auxiliatrice, celle qui nous dispense la grâce. Vous savez qu'au sanctuaire de la rue du Bac à Paris, nous avons la Vierge Marie qui a des rayons dans les mains. Et il y a des rayons qui sont lumineux, et Catherine Labouré nous rapporte qu'il y a des rayons qui n'étaient pas lumineux. Elle lui a dit, mais pourquoi il y a des rayons qui ne sont pas lumineux? Et elle a répondu, parce qu'il y a des grâces qu'on oublie de me demander. Vraiment, l'Église croit que si nous demandons des grâces par Marie, nous les recevons, qu'elle purifiera nos prières. Voilà, donc n'hésitons pas à être marial le plus possible. Nous honorons de manière particulière le samedi, la Vierge Marie. Quand la fête du cœur de Jésus, qui est le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement, le samedi suivant, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. parce que le cœur de Jésus est lié au cœur de Marie. Voilà. Et nous avons honoré de manière particulière l'engendrement, le fait que Marie porte Jésus. Pourquoi ? Parce que la fête de l'Annonciation, le 25 mars, 9 mois après, c'est le 25 décembre, 9 mois, c'est le temps de l'enfantement. L'Église, dans ses fêtes liturgiques, a honoré la fécondité, le fait que Marie soit enceinte. Nous honorons tout cela, oui. C'est beau. Alors, je vous invite à prier la Vierge Marie, à demander à l'Immaculée, la Mère de Dieu, celle qui est toute sainte, toute pure, de nous éclairer, de nous aider à grandir. Ô Vierge Immaculée, donne-nous de connaître ton Fils. Ô Vierge Immaculée, donne-nous de t'aimer et d'aimer l'Église. Amen.